Julien, avec ton invité, tu nous parles d'une avancée en matière de lutte contre le gaspillage et d'économie circulaire.
Exactement, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau ce soir Laurence Maillard-Meignery. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée La République En Marche de la deuxième circonscription d'Ille-et-Vilaine et vous êtes également vice-présidente de la Commission Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire à l'Assemblée Nationale.
Exact.
Mercredi 8 janvier, la commission mixte paritaire composée de députés dont vous-même et de sénateurs a conclu un accord sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Quatre grands thèmes structurent ce texte, la lutte contre le gaspillage et la préservation des ressources naturelles, la mobilisation des industriels pour la transformation des modes de production et le renforcement de l'information du consommateur, l'amélioration de la collecte des déchets et de leur recyclage avec la fin des dépôts sauvages en particulier. Quelques mesures phares ont été annoncées, comme par exemple l'interdiction de détruire des invendus non alimentaires, la fin de l'impression systématique des tickets de caisse, sauf demande express du client, ou encore la fin des emballages plastiques à usage unique. Je vous propose qu'on commence par écouter un extrait d'un reportage réalisé fin décembre sur France TV / Les Gaspilleurs, c'est ainsi qu'ils se nomment. C'est un groupe de personnes anti-gaspi en banlieue parisienne qui vont à la fermeture des supermarchés pour récupérer dans les poubelles les invendus alimentaires jetés par les enseignes, même lorsque ces derniers ne sont pas périmés.
Les produits qu'on trouve le plus souvent, hein, c'est ce qu'on a sous les yeux là, des yaourts. Produits laitiers à tout va. On est le 28 décembre, là on a des yaourts saveur spéculoos du 30 décembre. Donc il y en a un qui est abîmé sur les 4 et ils jettent les 4.
Compote de pommes, date de péremption 3 février.
2020.
2020 oui. Ouais. Le carton est légèrement ouvert.
Donc là c'est une boîte d'œufs qui se périme le 7 janvier. Il y en a un visiblement qui est cassé, le tout part à la poubelle.
Un œuf cassé sur une boîte entière, un yaourt cassé sur quatre yaourts. La liste est longue, mais on va s'arrêter là. Juste avant de vous faire réagir sur ce qu'on vient d'entendre, j'aimerais vous donner deux chiffres. Selon l'Agence de l'Environnement, environ 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont jetées à la poubelle chaque année. Ça correspond à 150 kilos par Français et Française. Et selon le Secours Populaire, un Français sur cinq ne mange pas à sa faim. Ma question est simple, comment en 2020 on en est arrivé là, dans un pays comme le nôtre ?
C'est la grande question du gaspillage que notre société a généré par diverses évolutions, à la fois des modes de consommation et puis cette espèce de profusion aussi à disposition des uns des autres. Et le paradoxe, évidemment, quand on gère l'abondance, on ne la gère pas forcément pour tout le monde. Et effectivement, un certain nombre de familles en France, nombreuses, manquent de tout. Et donc, cette loi, elle a pour vocation à limiter, voire dans le temps, dans les 20 prochaines années, de façon, on va l'espérer, assez radicale, le gaspillage à tous les étages de notre société, nos sociétés de consommation, qui a bien besoin d'être un petit peu plus régulée par la loi, mais aussi par les habitudes du quotidien.
Vous étiez au courant des pratiques des supermarchés comme les grandes enseignes qui jettent à la poubelle même des produits non périmés simplement parce que le packaging peut être cassé par exemple ?
Alors c'est des pratiques évidemment qui sont dénoncées, mais je rappelle que la loi interdit déjà la destruction des produits alimentaires et qu'il faut... pour de multiples raisons, favoriser le don, c'est ce qui est fait avec ce qui a été fait avec la loi Garot il y a déjà quelques années et qui se met en place progressivement dans les grandes surfaces alimentaires pour justement une incitation fiscale à donner les produits alimentaires et les flécher vers les associations qui sont agrémentées pour le don alimentaire ensuite vers les épiceries sociales, vers les banques alimentaires. Donc la destruction des produits alimentaires est interdite en France. Mais pour diverses raisons que vous avez bien évoquées, il y a encore du gaspillage, trop de stocks qui sont détruits pour des raisons X ou Y. Mais quand vous parlez de ce que vous retrouvez dans les poubelles pour des raisons qui ont un œuf cassé ou une date à peine dépassé, c'est aussi un certain nombre de produits qui n'ont même pas la chance d'arriver jusqu'à la grande surface. Donc des livraisons qui sont refusées, des fruits et légumes dont le calibre n'est pas accepté et qui entraînent des destructions de produits alimentaires. Donc ça, c'est déjà interdit. Et par divers réseaux associatifs, notamment très mobilisés, le gaspillage alimentaire en France se porte un petit peu mieux. Mais c'est la consommation du quotidien, y compris nos achats au quotidien. Et c'est la date limite des ventes qui va aussi évoluer vers un marquage beaucoup plus précis. Et puis, il faut rappeler qu'aussi, un produit dont la date limite de vente est dépassée n'est pas forcément un produit que nous ne pourrions pas consommer. Je pense aux produits laitiers, les yaourts, on peut parfaitement les consommer sans aucun risque. Et puis, tout un tas de produits dont il y a une obligation de date limite de vente qui ne sont pas non plus soumis à, en tout cas, pas de risque sanitaire ou alimentaire à les consommer au-delà de la date. Donc il faut aussi avoir un tout petit peu de souplesse par rapport à ces produits alimentaires. Et moins gaspiller, donc moins jeter.
Des dérives donc encore et encore du travail à faire malheureusement.
Bien entendu.
Le 9 janvier dernier, l'Assemblée nationale a voté donc dans le cadre de cette loi, de ce projet de loi pardon, l'interdiction des plastiques jetables d'ici 2040. Difficile d'être passé à côté, alors que Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, se félicitait sur son compte Twitter de cette avancée. De nombreux internautes ont réagi en se demandant pourquoi il fallait attendre 20 ans pour arrêter de vendre des produits avec du plastique à usage unique. Et plus largement, moi j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce que tout c'est toujours très long ici dans ce pays pour faire changer les choses.
Mais déjà, la question, c'est pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant ?
Déjà.
Donc, ça, c'est déjà la première question. Pourquoi on le fait maintenant ? Parce qu'il y a une urgence, bien entendu, et qu'on ne nous a pas attendu pour déclarer l'urgence sur les questions environnementales. Il y a déjà eu des lois hein, sur l'économie circulaire, et un certain nombre de choses sont déjà engagées en France. Là, il s'agissait d'accélérer l'économie circulaire. L'économie circulaire, je la vois comme une troisième voie. Une économie beaucoup plus vertueuse, qui gère l'économie de nos ressources et qui, dans un cercle vertueux, permet de produire moins de déchets, parce qu'à la base, c'est ça, produire moins de déchets, alors qu'on en consomme et qu'on en produit de plus en plus. Et c'est la loi, le législateur vient là pour réguler un système qui va permettre d'être plus vertueux. À la base et à l'origine, c'est produire moins de déchets pour chaque Français et chaque Française. Et puis, quand on produit des déchets de façon assez inévitable, c'est faire en sorte que ces déchets suivent un cercle vertueux qui suit à la fois plus une collecte, un tri vertueux à la maison, dans les entreprises, à tous les étages. Ensuite, une collecte qui va permettre d'orienter ces déchets vers des filières de traitement et le plus possible vers du recyclage et du réemploi. Et le réemploi, on l'a monté en objectif et en ambition dans cette loi.
Et pourquoi a-t-on besoin d'attendre donc 20 ans pour faire tout ça ?
Le 20 ans, c'est pas pour faire tout ça. Hein. Les 20 ans, c'est pour la trajectoire de sortie des plastiques à usage unique. C'est quoi un plastique à usage unique ? C'est un plastique qu'on a conçu pour être jeté. Et le plastique à usage unique, il est beaucoup utilisé dans l'alimentation. Donc, a permis aussi des avancées sur le plan sanitaire ces 25 dernières années, 30 dernières années. Sauf que le plastique qu'on trouvait fantastique il y a 10 ou 20 ans, aujourd'hui, envahit complètement nos modes de consommation, de fabrication. Et le plastique, c'est un produit qui peut avoir et présenter quelques dangers d'un point de vue sanitaire avec la migration et des perturbateurs endocriniens. Donc on a pris des mesures précises déjà l'an dernier dans la loi Egalim et encore cette année dans la loi économie circulaire pour en limiter l'usage au contact de l'alimentation des petits et des enfants et les plus fragiles. Ensuite, pourquoi 20 ans pour ces emballages plastiques à usage unique ? Parce qu'on peut déjà, et d'ores et déjà, on a pris des mesures cette année et l'année prochaine pour interdire les plastiques à usage unique qu'on utilise et qui polluent le plus notre environnement, à savoir, et dont on peut se passer, les pailles, les touillettes, les assiettes, les gobelets plastiques. Tout ça, ça sera interdit d'ici l'année prochaine et d'ores et déjà cette année. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? C'est lorsqu'on n'a pas de solution. Regardez un rayon de supermarché, tout ce que vous achetez au quotidien, les bidons de lessive, les tubes de dentifrice, les bouteilles de shampoing, de savon liquide, des produits ménagers au quotidien, tout ça, plus tous les secteurs industriels en France, si je compte aussi ce qui est utilisé dans l'aéronautique, dans l'industrie automobile, dans les secteurs industriels tout court et pas que
dans la grande distribution.
Exactement. Vous avez à peu près en France, c'est estimé à 100 milliards d'unités d'objets de plastique à usage unique jetables. Donc c'est une transformation profonde. y compris les bouteilles plastiques du quotidien. On en consomme de plus en plus en France, c'est un marché en expansion. Donc c'est un coup d'arrêt aussi, donner des signaux extrêmement forts. On diminue de moitié les bouteilles plastiques dans la loi d'ici à peine 10 ans, mais on a déjà commencé la trajectoire de sortie des plastiques à usage unique. Pourquoi 20 ans ? Parce qu'on pense qu'en 10 ans, on peut déjà transformer notre modèle, et c'est pas simple de se passer de tous ces plastiques, c'est-à-dire trouver des solutions et c'est passer du tout jetable vers le tout réemployable. Donc il faut dire à chacun et chacune que demain on n'ira plus acheter notre bouteille de shampoing, mais on ira avec un contenant pour le remplir et trouver des recharges et un système de réemploi pour tous les usages. Donc c'est pas simple. On pense qu'en 10 ans on peut faire l'essentiel du travail, et il y a 10 ans pour les secteurs on n'a absolument aucune solution. En particulier le secteur médical. Comment une piqûre en plastique, qui est un plastique à usage unique, on le remplace par autre chose aujourd'hui, par exemple, on ne sait pas. Voilà.
Graziella Melchior, que vous connaissez, je pense, députée du Finistère, a annoncé que la mise en place de ces mesures sera progressive donc, et conduira à des changements petit à petit des modes de production et de consommation. On l'a dit tout de suite, pour cette mesure qui est l'interdiction du plastique jetable d'ici 2040, est-ce que pour la totalité des mesures que vous avez prises, il va falloir attendre 2040 pour une interdiction totale ?
Absolument pas, non. Il y a énormément de mesures qui vont être prises et qui vont commencer dans les 1, 2, 3 prochaines années. Dans 3 ans, on a interdit tous les emballages dans la restauration rapide pour ce qui est consommé sur place. Donc ça, c'est déjà une mesure forte. Ça veut dire que la restauration rapide va devoir s'adapter et ne plus proposer d'emballage jetable, mais de la vaisselle réutilisable ou des contenants réutilisables dans la restauration rapide. Ça, c'est dans 3 ans. Le temps que tout le monde puisse s'adapter, toutes les chaînes et les petites enseignes aussi qui n'ont pas de solution à ce jour pour utiliser et nettoyer de la vaisselle. Donc ça, c'est des usages qui ont déjà commencé à se mettre en place. C'est relativement rapide. On a des mesures assez immédiates sur les plastiques dont je viens vous parler. Il y a aussi des filières pollueurs-payeurs qui sont inscrites et sont créées dans la loi. Et ça, les filières pollueurs-payeurs, c'est très important. Ça veut dire qu'on dit aux producteurs, ceux qui polluent, de financer le nettoyage, la collecte, le traitement, le recyclage. Et là, je pense à des nouvelles filières pollueurs-payeurs qui sont inscrites dans la loi, qui vont apparaître d'ici un an ou deux, notamment pour les mégots. Donc l'industrie du tabac va être mise à contribution pour équiper dans les villes des cendriers urbains, collecter tous les mégots qui sont par milliards jetés par terre. On rappelle qu'un mégot, ça pollue 500 litres d'eau. Exactement. Donc, ça va être pareil pour le bâtiment. Et ça, à ce jour, il n'existe pas de filière pollueur-payeur pour le bâtiment. C'est mis en place dans la loi. Le bâtiment, c'est 3 à 4 tonnes de déchets par an et par habitant en France. C'est absolument considérable. Et dans des régions, c'est un vrai problème, j'allais dire, de sécurité publique, puisqu'il y a des décharges sauvages qui sont mises en place. Et le maire de Signe, il y a quelques mois, est mort d'ailleurs en constatant justement un dépôt sauvage. Donc la REP, ce qu'on appelle une responsabilité élargie des producteurs, c'est filière pollueurs-payeurs qui sont mis à contribution pour financer l'ensemble de la chaîne de traitement des déchets produits par un secteur. Je pense aux jouets aussi, je pense aux couches, donc ça c'est aussi un matériau qui peut être recyclé, qui à ce jour ne l'est pas, qui part à la poubelle et dans l'incinération. Je pense à une filière sur le chewing-gum aussi qui nettoie le nettoyage des chewing-gums dans les espaces urbains, ça a un coût. Et aujourd'hui, c'est les collectivités donc, qui s'en occupent. Demain, ce seront l'industrie fabricant des chewing-gums qui va devoir s'en charger. Voilà, donc on a créé un certain nombre de filières pollueurs-payeurs qui vont se mettre en place dans les 2 ans à venir. Et ça, c'est très important parce que c'est le fonctionnement même d'une économie circulaire. C'est celui qui produit, qui va être mis à contribution avec des bonus-malus, comme ça existe par exemple pour les emballages depuis une trentaine d'années en France.
On va dézoomer un petit peu et passer de notre échelon national à l'échelon européen. En 2008, l'Union européenne s'était fixée comme objectif de recycler la moitié des déchets ménagers à l'horizon 2020. Selon Eurostat, sur des chiffres basés sur l'année 2017, l'Allemagne est pionnière avec 67,6% de ses déchets ménagers recyclés. En seconde position, la Slovénie, l'Autriche en bas du podium et la France, elle, malheureusement, ne se situe qu'en milieu de tableau avec 42,9%. On est loin des objectifs de nos voisins européens, et comment est-ce qu'on explique explique tout ça?
Alors, c'est la raison pour laquelle cette loi existe. Hein. Il n'y a pas eu de grande loi déchets en France depuis à peu près 35 ans. Donc, il était temps qu'on prenne en main la question des déchets pour améliorer la collecte, le tri, le recyclage, le réemploi, et puis finalement réguler aussi ce qui est le pire pour la planète, à savoir l'enfouissement, parce qu'on enfouit beaucoup de déchets en France. Il se trouve aussi que pendant des années, on exportait nos déchets à l'autre bout du monde, en Chine.
On en a entendu récemment parler.
Exactement. Et il y a quelques années, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, pardon, la Chine a fermé ses frontières et a dit... Vous, les Européens, les Français, vous allez vous occuper de vos déchets. Chez nous, c'est fini. Donc, ça veut dire se relocaliser le traitement et le recyclage des déchets en France, notamment des matières plastiques. Et pour ça, on sait qu'on a des grandes marges de progrès. Sur le recyclage du matière plastique, par exemple, on a des taux qui sont inférieurs à la moyenne des pays européens.
Et nos voisins sont donc meilleurs.
Peut-être qu'ils ont pris à bras-le-corps un peu plus tôt ces enjeux-là. Donc, on a des marges de progrès à faire. Et pour ça, dans la hiérarchie des déchets telle que le définit l'Union européenne, c'est à la base déjà produire moins de déchets. Et sur les plastiques, on a déjà abordé le sujet. Mais on a un vrai problème aussi de dépôts sauvages en France, qu'ils soient sur les plages, dans les espaces publics, dans les forêts. On a des comportements qui ne sont pas vertueux pour tous nos concitoyens. Donc c'est à chacun aussi de se prendre en main. Et raison pour laquelle on a beaucoup soutenu ce projet de consigne, parce qu'on est persuadé qu'en modernisant le geste de tri, en consignant les bouteilles plastiques, on peut éradiquer les 150 millions de bouteilles plastiques qui sont dans la nature et polluent nos plages et nos espaces verts, voire nos forêts. Et ça, voilà, on va mettre ça en place d'ici 3 ans, espérons-le, avec l'accord des collectivités territoriales.
Parce que juste après le projet, les collectivités territoriales, notamment, il y a eu cette mesure a été extrêmement contestée. Elle est sortie du projet, non ? Elle a été
Est maintenue dans le projet. Nous, on était très favorables. Moi, personnellement, j'y étais très favorable pour voir les résultats que ça peut très positif en 2-3 ans. Vous atteignez des taux de collecte extrêmement importants. Ça a été mis en place en Allemagne, dans les pays du Nord. Donc moi, nous avions estimé que c'était un outil, comme Brune Poirson a été aussi très, très favorable à cet outil-là de collecte accélérée avec une consigne déconsignation. Et ce faisant, on met en place une déconsignation pour le verre. Donc, on tenait beaucoup à cette mesure. Les collectivités nous ont demandé du délai, n'étaient pas très favorables à ce qu'on la mette en place.
Pas non plus favorables.
Alors là, pour le coup, les lobbies, c'était quand même plutôt les collectivités qui n'étaient pas très favorables à cette mesure. Et on a entendu aussi leurs objections. Ils ont un objectif à atteindre en 2022, c'est l'extension de consigne de tri. C'est un terme un peu barbare qui a déjà été mis en place à Rennes, à savoir vous mettez un maximum de vos déchets, en tout cas d'emballage, dans le bac jaune. Ensuite, ce bac jaune est trié pour un recyclage, des taux de performance de recyclage plus élevés. Ils nous ont dit, attendons quand même d'arriver en 2022 pour faire le bilan. La Bretagne, il faut le dire, est une des meilleures régions, enfin des régions de France les plus performantes sur la gestion des déchets, avec des taux de collecte et de recyclage plus élevés qu'ailleurs. Mais il y a des régions en France qui sont un petit peu moins bons élèves. Donc, très bien, c'est ce que nous ont dit les collectivités et ils ont été plutôt très, très motivés pour demander un temps de recul et avant qu'on puisse mettre en place cette mesure. Qui verra le jour si les taux de performance de collecte des bouteilles plastiques n'est pas atteint. Je rappelle que c'est en 2025, il faut atteindre 77% de collecte et presque dans 10 ans, 90%. Donc on en est loin encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on voulait accélérer le processus avec la consigne, dont on sait que c'est un levier extrêmement fort pour la collecte des bouteilles plastiques notamment.
On a l'impression, arrêtez-moi si je me trompe, que nos politiques commencent tout juste à prendre conscience de l'ampleur du problème climatique, qui découvrent que les océans débordent de plastique, qui commencent à prendre conscience qu'il est temps d'agir, qu'il est grand temps d'agir.
Je pense que la prise de conscience, elle est déjà là depuis quelques années, mais elle s'accélère avec l'urgence climatique que plus personne ne conteste à ce jour. Dans la loi, par exemple, si vous considérez les pollutions plastiques, le continent plastique dont on parle, et qui est une réalité, hein, la Fondation Tara l'a évidemment dénoncé et d'autres ONG à plusieurs reprises, et c'est visible et palpable. Vous avez dans ce monceau de déchets qui polluent nos océans, vous avez aussi des des microplastiques. Et on s'est attaqué aux microplastiques, c'est ce qui ne se voit pas, qui est parfois le pire. Les microplastiques se propagent dans nos rivières, dans les nappes phréatiques, évidemment jusqu'à la mer, et polluent les océans de façon extrêmement considérable. Donc la prise de conscience existe. Après, il faut se donner les moyens, c'est ce que nous faisons, pour agir de façon très concrète dans la loi, puis ensuite dans l'application de la loi. Mais n'oublions jamais que nous ne sommes pas seuls. La France est le premier pays du monde à se donner un objectif extrêmement clair d'interdiction des invendus non alimentaires. On parlait tout à l'heure du gaspillage de l'alimentation. La France est le premier pays au monde à interdire la destruction des invendus non alimentaires. Et si je vous donne un chiffre qui peut faire frémir, on détruit 185 millions d'euros de produits d'hygiène en France. Alors qu'on sait que 3 millions de Français s'en priveraient. On sait bien sur ce campus aussi la précarité des étudiants. Donc imaginons que tous les ans, on détruit en France 185 millions de produits d'hygiène, à défaut de pouvoir en faire autre chose. Aujourd'hui, demain, ça sera interdit en France. Donc, c'est fléché vers le don et des filières de dons qui sont incitées. Donc, on a pris une mesure très forte et je pense que peut-être qu'on prend... Est-ce qu'on va rattraper le retard ? J'en sais rien. En attendant, on l'accélère dans cette loi.
Et c'est un constat qu'on fait depuis des années. En tout cas, merci Laurence
Maillard-Maignery
d'avoir
beaucoup.
Été avec nous
merci
pour revenir sur ce projet de loi donc, relatif à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Je le rappelle, vous êtes députée La République En Marche de la 2e circonscription d'Ille-et-Vilaine et aussi vice-présidente de la Commission Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire à l'Assemblée
merci
nationale.
Beaucoup. Merci beaucoup. Merci.